bonjour, merci d'être là, si nombreux, pour cette rencontre avec André Dussolier. Et André Dussolier, c'est un peu un monument, un monstre sacré du cinéma et du théâtre français. 145 films, 25 pièces, 3 Césars, un Molière pour Novecento, justement, que vous jouez actuellement au Rond-Point. Et dont la carrière s'était interrompue à cause d'un vilain accident en scène qui vous a empêché de travailler pendant un an. Et là, vous allez le reprendre après le Rond-Point encore au Théâtre Montparnasse. Et pourtant, 45 ans de carrière, André Dussolier, vous n'avez quasiment pas changé. Toujours la même élégance distinguée à la française, matinée de Sacha Guitry et d'Alain Resnais. Toujours cette même voix grave, insinuante, parfois nasillarde, que vous envie même Denis Podalydès, puisqu'il a parlé de votre voix dans son ouvrage sur la voix. Et pourtant, malgré cette douceur apparente, vous êtes capable, quand vous jouez, des ruptures les plus saisissantes. Vous avez été à la fois Staline et puis un homme d'extrême droite, un papy amateur de femmes et en même temps un diplomate très inquiétant, tout ça récemment au cinéma. Donc c'est peut-être pour ça, pour cette rupture que vous avez en une seconde de passer d'un personnage à l'autre, d'une émotion à l'autre, de la tendresse à la cruauté, que vous êtes si rare et si essentiel dans notre vie artistique. Mais avant tout, je voulais savoir, s'arrêter de travailler un an pour un comédien, comme vous l'avez fait après cette chute, comment ça s'est passé, la chute, d'abord
Eh ben, c'était sur cette scène, en effet. J'étais en train de jouer Novecento, et puis tout d'un coup, les tendons de mon pied droit se sont rompus. On ne fait pas attention à cette partie extrême de notre corps qui est si éloignée, qu'on méprise presque, et qui est si fragile. Il y a tellement de muscles, tellement d'os là-dedans. Et puis, voilà, en jouant, c'est parce que Novecento est assez physique, je danse, etc. Et puis voilà, ça s'est arrêté. J'ai quand même eu la volonté d'aller jusqu'au bout du spectacle, malgré les claquettes qu'il me restait à faire. Et voilà, j'ai été interrompu en plein élan. C'était triste, mais en même temps, j'ai été très bien soigné. Donc, je n'avais qu'une envie, c'était de revenir et de boucler la boucle ici.
Et ne pas jouer pour un acteur pendant un an, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait quand on est acteur et qu'on ne joue pas?
Alors on ne s'arrête pas quand même, parce que le corps est inapte pendant un certain temps, parce qu'il m'a fallu être opéré, me rééduquer pendant 6 mois, mais par contre la tête ça allait bien, et donc je pensais à l'avenir, à la suite, je lisais, je pensais à des spectacles. Ça permet de, je sais pas, de rentrer, enfin d'être près de soi évidemment par définition. Je ne pouvais pas bouger beaucoup et rencontrer beaucoup de monde, mais tout d'un coup je pensais à des projets toujours, c'est ça qui nous habite.
Ça vous a changé, ces 8 mois d'interruption?
Ce qui a changé, c'est la coulisse de ce qui se passe dans ces moments-là. C'est-à-dire que moralement, j'ai plus souffert que physiquement. Physiquement, on se remet, mais après, on est obligé de passer dans un domaine d'assurance, de contrat, d'avocat. Oh là là, c'était compliqué, c'était difficile à vivre. Après ça, non, ça ne m'a pas changé, mais peut-être que... ça a fortifié des envies futures, quoi, peut-être bien, sur certains projets.
Lesquels, par exemple?
Ah, bah alors là, moi j'aime bien, Fabienne, j'aime bien parler des choses quand elles sont vraiment sur le point d'aboutir, donc c'est plutôt quand même à l'état de projet. Je pense au théâtre, évidemment, parce que le théâtre, j'ai l'impression d'être un petit peu plus maître de mon destin ou de ce que j'ai envie de faire. Le cinéma, ça peut survenir comme ça à tout moment, mais le théâtre, j'aime bien être un peu à l'origine peut-être des projets. Il faut dire qu'un acteur, il dépend tellement des autres, des metteurs en scène, des producteurs, que tout d'un coup, quand on peut prendre l'initiative, et surtout au théâtre où on a besoin d'un texte, de la lumière et des spectateurs, évidemment, tout d'un coup la magie peut opérer. Donc je pense à des spectacles, si je vous parle de, je ne sais pas, du billard, ou si je pense à d'autres choses, mais je préfère rester un peu vague.
Parce que vous êtes de plus en plus à l'initiative de projets. En 2001, c'était Monstre Sacré, Sacré Monstre. En 2003, Les Athlètes Plein la Tête. Novecento, c'est un projet que vous avez vraiment porté. Oui. Alors, d'où ça vient tout à coup cette initiative, cette envie de diriger vous-même votre carrière? Parce que les gens ne font pas assez appel à vous au théâtre?
Si, même je pourrais, j'y pense d'ailleurs, essayer de faire des rencontres avec des metteurs en scène que j'aime énormément au théâtre. On entend, enfin, Ostermeier par exemple, parce qu'il a maintenant, il a un pied un peu en France de temps en temps, ou bien Ivo Van Hove aussi. Il y a des metteurs en scène avec lesquels j'aimerais beaucoup travailler, ou Cyril Test, qui est un jeune metteur en scène. Bon, voilà. Mais il faut établir les projets, ça prend un petit peu de temps. Et pendant ce temps-là, je pense à des choses personnelles, parce que je pense qu'au bout d'une certaine de certains temps de vie d'acteur, on a envie d'être un peu à l'origine des textes qu'on lit, qu'on travaille, peut-être chez soi, et je sais pas, qu'on a envie de voir éclore d'une certaine façon. Novecento, par exemple, je l'avais vu quand ça avait été créé dans les années 2000 par Jean-François Balmer, voilà, exactement. Le texte m'avait beaucoup plu.
Alors racontez-nous le texte pour ceux qui ne le connaîtraient pas.
Alors, le Novecento, en quelques mots, c'est l'histoire, c'est donc écrit par Alessandro Baricco, un auteur italien contemporain, qui est très célèbre dans son pays, qui a écrit aussi un roman qui s'appelle Soi, S-O-I-E, qui avait eu pas mal une grande renommée ici en France aussi. Et Novecento, pianiste, raconte l'histoire dans les années 30 d'un enfant abandonné sur le piano de la salle de bal d'un grand paquebot, d'un grand transatlantique, et qui est élevé par l'équipage. Et c'est un conte de Baricco, et cette histoire raconte la vie de cet enfant qui va sur son piano avoir l'impression de s'épanouir davantage que s'il descendait à terre, où il risque de s'émietter, de pas savoir où aller, quelle rue prendre, quelle femme rencontrer, enfin bon. Et là, sur son piano, il a l'impression d'aller très loin, c'est ce que nous dit Baricco, surtout qu'il voyage entre l'Europe et l'Amérique et qu'il entend. Et ça, je suis très sensible à ça, moi qui ai fait des études et suivi un cursus assez classique, aux autodidactes. C'est-à-dire que, bon, ce Baricco, il entend Ravel, Debussy en Europe ou Bach, puis il entend le jazz, Jerry Roll Morton en Amérique. Et du coup, il fait ce qu'il veut avec tout ça. Il s'amuse, il a une grande liberté. Et j'en ai connu quelques-uns, vous parliez de René tout à l'heure. René aussi est un autodidacte. J'en connais qui ont une plus grande liberté peut-être avec les œuvres. Et c'est ça qui m'a touché.
Et donc, jamais Novecento ne quittera le bateau, jamais il n'aura un contact avec la réalité.
Non, il essaie, il est tenté, on lui propose de descendre à terre, d'aller se mesurer, d'aller jouer pour les autres. Et puis finalement, il a l'impression d'aller beaucoup plus loin en restant sur les 88 notes de son piano, parce que tout d'un coup, plutôt que descendre à terre, où il aurait le sentiment de s'émietter, de s'éparpiller. Évidemment, c'est un conte sur le fait que, quand on est dans le monde, on essaie de trouver sa place. Donc il y a une sorte de compétition, de rivalité, et puis on fait passer la chose pratique avant toute chose, avant ses propres envies. Or, Novecento, c'est quelqu'un qui suit son envie et qui va jusqu'au bout de cette envie, qui ne se préoccupe pas des réalités. Voilà, on peut dire qu'il est dans une bulle de l'enfance, hein, peut-être bien, mais voilà. Et alors, simplement pour ajouter quelque chose à ce pourquoi j'ai voulu refaire, c'est à la faveur d'une discussion comme ça avec un producteur. Ce texte avait été joué par Jean-François Balmer dans les années 2000. Et puis tout d'un coup, il me dit, mais tu pourrais faire quelque chose peut-être en mélangeant les mots et la musique. Et j'ai repensé à Novecento et je me suis dit que vraiment la musique avait une place dans ce monologue où elle pouvait devenir un personnage à part entière et prolonger l'émotion du récit.
Mais Baricco ne voulait pas, il était hostile à l'idée.
Oui, il m'a mis en garde, il m'a dit, il n'était pas hostile, mais quand même, il était très réticent, parce qu'il m'a dit, mais écoutez, moi j'en parle de la musique, alors c'est normal, la part d'un auteur, il racontait le détail de la musique, de ce qui se passait, ça faisait rêver le spectateur, ça suffisait. Il dit, moi, le meilleur spectacle que j'ai vu de Novecento, c'était en Finlande, où il y avait trois notes de musique à la fin, c'était parfait, mais je comprends que l'auteur dise ça. Et puis, en fait, j'ai dit, mais non, je crois qu'il y a la place, j'aime pas la musique qui accompagne les mots, mais je pense qu'à certains endroits, elle peut être là et prolongée. Je pensais beaucoup encore une fois à René avec le film On connaît la chanson, où tout d'un coup la chanson faisant partie de nos vies, elle intervenait à la place des dialogues et des répliques.
Il y a des points communs entre vous et Novecento ?
Sans doute. C'est-à-dire que je n'ai pas été Novecento à mes débuts, parce que je suis descendu à terre, je suis venu à Paris, je me suis battu, etc., pour essayer de trouver ma place. Mais par contre, aujourd'hui, c'est vrai que j'aurais tendance à me contenter de mes 88 notes sur le clavier du piano.
Mais on a l'impression quand même, quand vous parlez de votre enfance ou de votre jeunesse, que le monde réel était quelque chose de difficile, d'un peu triste.
Oui, c'était beaucoup plus limité que le monde virtuel que m'a offert le théâtre, que j'ai découvert quand j'avais 10 ans. C'était un professeur de français qui nous emmenait voir des pièces de théâtre, qui montait elle-même des pièces de théâtre. Et tout d'un coup, C'était le choc qui était vraiment... Je ne savais même pas que le théâtre, ça existait. J'étais dans un petit village en Haute-Savoie, 1000 habitants. Bon, voilà. Et puis, je passe en sixième à Saint-Julien-en-Genevois, je me souviens, et elle nous emmène au théâtre. Et tout d'un coup, je vois dans la salle des gens qui payent leur place pour voir un spectacle. En l'occurrence, c'était Poil de Carotte. Et des acteurs qui disent des choses que je n'entendais jamais dans la vie, qui expriment et qui vivent librement des sentiments qu'on avait tendance à retenir dans la vie réelle.
Tout d'un coup,
L'émotion en général, c'est vraiment, pour un jeune garçon, on dit, bon, bah,
tu ne vas pas pleurer.
J'étais fils unique, etc. C'était une éducation assez austère, on va dire. Bon, et j'avais deux parents, ma mère était citadine et mon père plutôt de la haute montagne. Et donc, du coup, il y avait un mélange. Et il y avait
des percepteurs d'impôts, tous les deux, non?
Oui, exactement. Il travaillait dans les finances. Persécuteur, disait-on dans le village, mais pas du tout. Pas du tout, parce que percepteur, il délivrait les permis de chasse. Et dans le village, c'était très joli, parce que les paysans n'ont pas la liberté de venir aux heures de bureau traditionnelles. Donc, il ouvrait la perception le dimanche. Il délivrait les permis de chasse, il payait des pensions. Et on était récompensés avec des œufs qu'on découvrait sur la fenêtre ou des salades. Enfin, voilà, cette époque, c'était dans les années 60. 50, 60.
La Savoie, dans ces années-là, ça vous a apporté quelque chose à votre imaginaire d'acteur ?
Il n'y avait pas de vie professionnelle des acteurs. Il y avait un peu, je me souviens, parce que j'ai cherché...
Non, mais en quoi ça a pu vous nourrir,
la Haute-Savoie ?
Comme artiste, ouais, cette enfance-là, dans un village.
Je passais mon temps devant la fenêtre, quoi. Je regardais la neige tomber, je rêvais beaucoup. Et donc, du coup, j'étais prédisposé presque à aller dans un monde virtuel qui me paraissait beaucoup plus riche et attirant que le monde réel dans lequel j'étais, où j'avais l'impression qu'on se privait de savoir ce qui était à portée de main, la nature magnifique là-bas. J'en ai profité, mais en même temps, il n'y avait pas vraiment un dialogue, quoi. Le dialogue, il était instauré ou installé par les auteurs qui me donnaient un accès formidable à des choses importantes de la vie, essentielles, et vraiment, en allant sur scène, j'avais l'impression que j'avais une plus grande liberté que dans la vie réelle.
Donc vous découvrez sur scène des sentiments que vous ne connaissiez pas forcément dans la vie.
C'est pas que je les connaissais pas, c'est que je ne les exprimais pas, quoi. Il fallait les retenir, rire ou pleurer, c'était des sentiments que les adultes même n'exprimaient pas trop. On était dans une sorte de non-dit perpétuel. C'était assez et donc un enfant est désarçonné devant la découverte des choses qu'on peut faire dans la vie et de pas avoir de dialogue, de rapport. J'ai l'impression de vous parler d'un monde très lointain.
Non, pas
mais,
du tout.
Mais en fait, oui, c'est la capacité d'exprimer les choses, la liberté de le faire. Évidemment, moi, j'ai des enfants aujourd'hui.
Les enfants sont quand même plus libres, peut-être, aujourd'hui.
Oui, voilà, ils sont nés à Paris. Il y a une liberté qui vient très vite, très tôt. Et donc, l'échange se fait assez vite. Et ils sont ouverts à toutes les informations, à tous les dialogues. Et donc, du coup, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les mêmes soucis pour se réaliser. Mais quand même, l'information était beaucoup plus... fréquente qu'à mon époque où elle était vraiment elle venait au goutte à goutte.
Oui, mais quand même vous tardez après ce choc de Poil de Carotte, vous tardez à vous lancer dans le théâtre, vous faites quand même des études classiques, vous nous avez dit,
oui.
Deux licences
linguistique et de lettres modernes, mais enfin je vais au bout des études en fait pour me payer un billet de train, quoi. Je pensais vraiment au théâtre. Et à 18 ans, je m'étais renseigné, j'avais vu le TNS, etc., des écoles et tout. Mais évidemment, ce n'est pas seulement les parents, mais c'est tout l'environnement et là-bas qui disait « Mais tu vas débarquer, tu ne connais rien, etc. » Et je me disais, si je n'ai pas acquis la liberté, peut-être, si jamais ça ne marche pas, de faire autre chose, je vais revenir vaincu et je ne retournerai jamais au théâtre. Donc j'ai voulu me payer la liberté d'aller au bout des études, qui me donnait peut-être une sorte d'assurance, entre guillemets, mais de quoi, je ne sais pas, mais enfin quand même, et parce que les diplômes avaient une certaine valeur à l'époque. Et puis, je me suis, une fois que c'était obtenu, je suis parti à Paris pour tenter l'aventure.
Et alors justement, quand vous arrivez à Paris à la fin des années 60, c'est dur ? Vous rentrez assez vite au conservatoire, par exemple. Alors, assez vite à la Comédie Française.
Bah, je frappe à la porte du conservatoire et on me dit, ben, Coco, il faut que tu passes des scènes à la rentrée, c'est dans un mois et demi. Alors, bon, mais comment je fais? Bah, tu vas dans un cours, très bien. Quel cours? Alors, vraiment, j'étais naïf. Hein, je connaissais juste l'intendant du conservatoire. Il me cite des cours et je vais chez Périmoni. Mais j'avais 23 ans et demi et Péri me dit.
La date limite du conservatoire.
C'est la date limite, voilà. C'est 24 ans la date limite. Et je lui dis, il me dit, ne rentre pas au conservatoire tout de suite. Tu vas être livré à toi-même. Ça va être une catastrophe. Je ne sais pas pourquoi ces mots sonnaient vrais et je sentais qu'il avait raison et que j'avais besoin de travailler et d'apprendre. Et je lui dis, mais l'année prochaine, je ne pourrais pas rentrer au conservatoire. Tu n'as qu'à demander une dérogation. J'ai demandé une dérogation, j'ai obtenu. Et du coup, j'ai passé un an en cours qui était vraiment salutaire, une année salutaire.
Vous êtes un gros bosseur, vous avez la réputation d'être un perfectionniste, André Dussolier. Alors, c'est quoi le travail d'un acteur?
Bonne question, très bonne question, parce que là vraiment, moi j'aimerais bien connaître les secrets de chacun et je pense que je regarde mes camarades, filles, hommes, acteurs ou actrices et chacun, c'est très mystérieux quoi. Évidemment, si je peux expliquer les choses par rapport à ce que je fais, le premier élément qu'on a c'est le texte quoi, dans une pièce ou dans un film. Et puis après, on essaie de s'approprier ces mots, comme si on avait à les dire comme si on était soi en train de les dire. Puis petit à petit, viennent des images, l'imagination, les exemples de gens qui disent ceci plutôt que cela. On construit un personnage. Alors moi, pour moi, ce qui est très important, et faut préciser aussi que moi, quand j'ai commencé, c'était l'émergence de tous les acteurs américains qui jouaient
Pacino,
Hoffman, De Niro, qui se métamorphosaient d'un rôle à l'autre. Pour moi, c'était vraiment ça le métier d'acteur.
Ça vous impressionnait.
Ça m'a impressionné. Et j'ai trouvé que c'était
de changer d'un complètement.
Voilà. Oui, parce que ça devenait passionnant, parce que tout d'un coup, quand j'allais voir un film et que je reconnaissais même pas Sean Penn et que je le reconnaissais au milieu du film, tellement il était métamorphosé, c'est pas l'apparence physique, mais c'est la manière de jouer, d'être. Et je me disais, alors là, le métier d'acteur, c'est vraiment un métier de création, ça vaut le coup. Et parce que si on est là à reproduire toute sa vie le même personnage, c'est ennuyeux. Donc, du coup, ça m'a paru vraiment passionnant. Du coup, ça nous oblige à faire un effort. Et alors, en plus, par rapport à. Alors, ça, c'est une grande différence entre le travail qu'on peut faire quand on est acteur français et des acteurs anglo-saxons ou américains, c'est que l'écriture théâtrale et même cinématographique des acteurs américains ou anglais, elle est beaucoup plus économe. Nous, on a des auteurs qui font beaucoup parler leurs personnages. Donc du coup, on se retranche un peu plus vite derrière les mots. On a l'impression que les sentiments sont exprimés par les mots. Tandis que eux, ils sont obligés à la fois de dire les mots, bien sûr, ça fait passer le message, ça fait avancer la scène, mais aussi les silences. Les silences, pour moi, c'est capital. C'est comme l'écrin des mots, et c'est comme si on pouvait donner aux spectateurs la possibilité de voir ce qu'on vit, ce qu'on pense, et ça, je trouve ça passionnant encore mieux que les mots presque.
Donc Molière est plus bavard que Shakespeare, c'est pour ça que les acteurs anglo-saxons sont peut-être meilleurs.
C'est vrai, parce que quand j'ai commencé, il y avait Pinter, alors lui vraiment c'est un orfèvre justement des silences et des mots, et il y a tout un travail que l'acteur peut faire pour justement dire ce que les mots ne disent pas, quoi, et qui complète un peu toute la situation, le non-dit, voilà. Même si j'ai joué avec des metteurs en scène qui utilisent beaucoup les mots, même au cinéma, comme Éric Rohmer, je me disais non, il faut laisser des temps, la respiration, la surprise. Vous savez, il y a une expérience qui était extraordinaire, qui a été faite sur Arte. On interviewait une femme, je me souviens de cet exemple précis, qui racontait un épisode de la guerre de 40. Et donc, elle était interviewée, elle avait un sourire timide au départ. Et puis, elle racontait qu'un Allemand avait pris un Français comme ça dans une colonne et lui avait tiré une balle dans la tête. Et donc, au moment où elle racontait ça, la voix se brisait et tout d'un coup, elle revivait et il y avait une grande émotion. On prend son texte, on le recopie au mot à mot et on le donne à une comédienne et à un metteur en scène. Pour voir ce qu'ils vont en faire. C'est ça notre école à nous, pour voir la différence qu'il y a entre la réalité et puis ce qu'on va en faire. Évidemment, un texte comme ça, qui raconte quelque chose de dramatique, la tentation, le défaut qu'on peut avoir, c'est de dire « Ah, c'est dramatique, donc je vais être dramatique dès le départ ». Pas du tout. La vie, c'est jamais, c'est toujours surprenant, quoi. Même quand on raconte quelque chose de dramatique, il peut y avoir des rires, des sourires, des choses. Et c'est là, c'est pour ça que je dis les silences, les mots, c'est tout un travail d'architecture, de construction. Alors, ça a l'air très, comment dire, comme si je pensais le travail, mais c'est pas, je le pense pas, je le ressens petit à petit, et en effet, j'y vais, je reviens, et je construis un peu le personnage de cette façon. Il y avait De Niro, je me souviens, dans une scène, il était une fois en Amérique, à chaque fois qu'il descendait d'une voiture, il butait sur un petit caillou. Et mais à chaque fois, à chaque prise, il butait sur ce même petit caillou. Mais c'était un détail, mais qui racontait beaucoup de choses sur le personnage. Voilà.
Oui, mais alors tout ça, comment vous le faites, cette architecture? Vous répétez 20 fois le texte, et à force de... Comme un Michel Bouquet, par exemple, qui se répète le texte sans arrêt, jusqu'à ce qu'il soit hanté. Comment, c'est quoi votre petite cuisine?
Alors, ma cuisine à moi, c'est pas... Oui, j'ai entendu dire, mais j'aimerais bien savoir comment il fait, Michel Bouquet, parce que j'ai l'impression que même quand il joue la pièce, il va dans sa chambre d'hôtel avant d'aller en scène le soir et il répète encore.
Mais Truffaut disait que vous répétiez même après que la prise était tournée.
Comme Michel Bouquet, oui. Parce que je découvrais le cinéma et un jour, il me dit, mais qu'est-ce que vous faites? Là, j'étais derrière un décor. Ben, je dis, j'essaye de voir si j'ai vraiment joué comme j'avais imaginé qu'il fallait jouer. Mais c'était trop tard, enfin bon voilà, le cinéma ça va vite.
T'es une belle fille comme moi?
Oui, une belle fille comme moi. Et c'était très frustrant le cinéma, parce que ça va très très vite, évidemment, ça coûte cher. Et puis il était content, donc on passait à une autre scène. Mais au théâtre, on a le temps de répéter, de reprendre. Et chez soi, à la maison, c'est vraiment... Moi, en fait, voilà, c'est comme un lance-pierre, quoi. Une réplique pour moi. C'est-à-dire que la réplique, c'est l'information qui on dit quelque chose à quelqu'un, quelqu'un la reçoit, puis vous dit quelque chose d'autre. Et c'est dans cet espace-là qu'on peut voir tous les sentiments par lesquels passent les personnages. On se fait une idée du personnage et on se fait une idée de leur manière de vivre la situation. Donc du coup, c'est comme si j'attendais, comme j'imaginais mon... En fait, moi, je ne travaille pas un rôle sans travailler celui des autres aussi. Et donc du coup, j'ai une idée idéale de la scène comme elle doit être jouée. C'est très abstrait tout ce que je raconte là, j'en ai bien conscience. Mais
non, parce que si les autres ne jouent pas comme vous aviez rêvé qu'ils jouent, comment vous faites?
Alors, tant pis, ça, c'est vrai, ça, c'est le travail à la maison, et le travail à la maison, eh ben, c'est fini. C'est comme quand je rentre en scène le soir, je sais que ça va être à chaque fois tout à fait différent. J'ai les mêmes mots, j'ai les mêmes repères, j'ai la construction. Mais il faut faire avec la vie. Et la vie ne se représente jamais de la même façon. Et les gens ne réagissent jamais de la même façon. Et nous, on n'est pas forcément dans la même humeur. Donc il faut... On a établi cette structure. Cette structure vous aide. Mais il faut, une fois qu'on rentre en scène, être tout à fait libre. Et en effet, jouer avec les partenaires, avec ce qu'ils vous proposent. Ou avec,
C'est chaque fois différent, vraiment. Ou c'est de la légende d'acteur?
Moi, je pense que c'est différent. Évidemment, ça se mesure de façon infinitésimale. Je pense pas qu'en regardant le spectacle chaque soir, on voit beaucoup les différences. Mais je connais rien en musique classique. Mais quand je discute avec des musiciens, ils me disent, mais non, l'interprétation de Karajan ou bien de je sais pas qui, de Richter, ça va pas être la même chose. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est les mêmes notes, les mêmes blanches, les mêmes noires. Et pourtant, il y a une interprétation différente à chaque fois. Bon, mais c'est la même chose, un peu pour nous.
Mais vous disiez que vous aimiez changer d'un rôle à l'autre, mais pourtant il y a de grands acteurs, je pense à Depardieu ou Isabelle Huppert, qu'on a l'impression de retrouver identique d'un personnage à l'autre, et pourtant
oui.
On est séduit. Alors comment vous expliquez ça?
Ah mais parce que... oui, c'est-à-dire que quand je parle de changement, de transformation, il me semble qu'au-delà... De ce qu'on peut ressentir à travers un rôle, et vous venez de citer deux acteurs magnifiques qui ressentent les choses vraiment de façon extrêmement intense et vraie. J'ai tourné avec les deux, je l'ai vu, mais il y a un moment donné où on peut aller un petit peu plus loin. C'est comme un peintre, quoi. À quel moment il arrête de peindre son tableau, quoi. Il y a un moment donné où on peut toujours, dès qu'il y a encore une question qui s'appelle pourquoi il fait ça, pourquoi il dit ça, pourquoi. Et quand il y a une réponse, on continue, quoi. Et donc, du coup, ça peut nous entraîner à dire, ah oui, mais ce personnage-là, finalement, il se rapproche un peu de celui que j'ai vu dans la rue, qui était habillé comme ça, qui avait un comportement comme ça. Ça nous permet de rentrer dans les détails. Et plus on peut encore rentrer dans les détails, mieux c'est.
Il y a des partenaires qui vous ont bluffé, qui ont fait évoluer votre jeu, votre personnage, dans des sens que vous n'imaginiez pas au départ,
Moi, j'adore.
Au théâtre ou au cinéma, Oui.
J'adore les comédiens, donc évidemment il y a toujours des surprises par rapport à ce que vous disiez, Fabien. C'est-à-dire qu'il y a évidemment on travaille chez soi et puis après sur le moment on découvre des choses tout à fait inattendues, différentes, et c'est bien qu'on puisse rebondir avec ce que l'autre vous propose. Mais bon, bah, Depardieu, ils avaient du père, mais je pourrais en citer plein d'autres. Je sais pas, je cherche les exemples surtout qui m'ont frappé. Moi, j'ai, Jean-Pierre Bacri, enfin voilà, je sais pas. Je
pourquoi peux... vous aimez tant les comédiens?
Parce que
c'est une race à part, les comédiens.
Ben, c'est très vulnérable, un comédien. C'est une race à part. Je pense qu'ils ont fait un peu. C'est un peu prétentieux. Je n'ai pas envie de parler au nom des autres.
Oui.
Je pense qu'ils ont fait un peu le deuil d'une certaine vérité dans la vie et que tout d'un coup, ils vont donner toute leur vie dans un monde artistique un peu virtuel, éphémère, dont on oublie tout une fois que le spectacle est terminé et qui pourtant reste dans nos mémoires. C'est quelque chose d'extrêmement vivant. Il faut être au cœur des choses, il faut aller le plus loin possible. Et c'est ça qui m'émeut, c'est ce don de chaque instant.
Tout en renonçant à la réalité.
La réalité, évidemment, paraît peut-être difficile d'accès pour certains. J'en ai connu, j'en ai côtoyé vraiment depuis quand on a commencé. Je me souviens Jacques Villeray, je me souviens Nathalie Baye avec qui j'ai répété au conservatoire. Il y a tout d'un coup à chaque fois que j'étais proche, évidemment, on faisait nos études ensemble et il y avait des rapports d'amitié. On savait pas ce qu'on allait devenir, ce qu'on allait faire plus tard. Donc, il y avait des rapports d'amitié qui étaient essentiels. Et du coup, on voit que la réalité, elle est douloureuse, difficile, délicate dans l'approche. Je mets pas les comédiens à part. Elle est délicate et difficile pour tout le monde, évidemment, la réalité. Mais chacun s'accommode et s'arrange. Nous, on s'arrange avec un monde un peu virtuel.
Pourquoi vous avez lâché finalement assez vite le théâtre? Vous allez me dire que vous n'avez pas lâché le théâtre, mais vous avez 145 films, 25 pièces de théâtre, donc qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous avez été tout de suite à la Comédie Française,
oui.
Vous y êtes resté à peine un an,
oui.
Vous avez été chez Planchon au TNP de Villeurbanne, mais pourquoi vous avez...
Je crois qu'il y a
abandonné.
Plusieurs raisons, et pour être tout à fait honnête, il faut vraiment bien connaître...
Pour l'argent peut-être.
Pour l'argent, non, je pense pas, très honnêtement, parce que le théâtre privé peut vous donner l'occasion de gagner autant que dans un film. Moi, j'ai été dans les films d'auteurs, c'était pas des films très bien payés, pas d'énormes budgets. Donc, non, c'est pas une question d'argent. C'est que le cinéma, ça raconte la vie d'aujourd'hui, quoi, vraiment. Par contre, le théâtre, il y a bien des auteurs contemporains, je suis d'accord, mais pas tant que ça. Parce qu'il y a le théâtre, on va faire encore la polémique, mais je ne vais pas l'ouvrir la polémique, puisque vraiment on souhaite tous, nous comédiens, que les cloisons soient poreuses et qu'on passe du théâtre privé au théâtre subventionné, enfin au théâtre public. Là, je suis dans un théâtre où on peut... Alors là, typiquement, c'est Jean-Michel qui a créé ça, que je trouve magnifique, qu'on peut jouer des auteurs contemporains. Et la réponse du public est importante, essentielle. Ça fait longtemps que dure cette belle aventure. Et vous parliez de Fournelle tout à l'heure. À chaque fois qu'il y a des propositions, c'est beau de pouvoir les faire, quoi. Mais c'est assez rare. C'est-à-dire que dans d'autres théâtres publics, ça vient un peu de l'organisation. On a vu des grands metteurs en scène apparaître, c'est vrai. Mais on avait l'impression, enfin moi j'avais l'impression, à certains moments, que j'étais, comment dire, le comédien du metteur en scène, quoi. J'avais moins l'impression. Au théâtre privé, par exemple, j'avais l'impression d'être le comédien d'un auteur et des auteurs contemporains.
Comment vous expliquez ça? Les metteurs en scène dans le privé sont plus s'effacent davantage devant l'acteur.
Oui, s'effacent. Je dis pas que c'est bien.
Parce que c'est l'acteur, la tête d'affiche, qui fait venir le public.
Il y a un peu de ça, mais dans les années 70-80, il y avait vraiment des auteurs qu'on a découverts et que le théâtre privé a révélés. Beaucoup plus que le théâtre public. Et vraiment, je dis ça dans un théâtre qui est justement exactement le contraire.
Vous pensez à qui? Vous pensez à Pinter?
Pensez à Pinter, à Schisgal, à... Moi, j'ai joué Bergman aussi, scène de la vie conjugale, avec Nicole Garcia. Ça ne me revient plus en mémoire maintenant, mais... Comment?
Albi,
absolument, La Chèvre, bon, même si... voilà. Mais s'il y avait toujours des aventures nouvelles avec des tas d'auteurs contemporains, et Ionesco, tout ça, ils sont nés au théâtre privé. Hein. Bon. Après, je ne dis pas que le théâtre public... non, je parlais de Cyril Test tout à l'heure, donc il y avait vraiment... Il y a aussi des créations contemporaines, évidemment, et tant mieux. Mais c'était plus le règne du metteur en scène, quoi, au théâtre public, je pense.
Et quel est votre rapport avec le metteur en scène, justement?
Alors, Planchon, vous avez cité Planchon, je l'adorais, Planchon. Mais Planchon, alors voilà, c'est marrant d'en parler tout de suite. C'était à un moment donné, j'ai connu dans
les années... Par-dessus bord de Vinaverk.
Voilà, par-dessus bord de Vinaverk. Oui. Alors ouais, oui, ça, à chaque fois, je trouve la contradiction avec ce que je viens de dire de Vinaverk, c'est un auteur contemporain. Bon, et Planchon, mais la différence, c'est que... Alors, c'est une notion très importante. C'est que dans les années, c'était en 70, 72 exactement, eh bien... Planchon, avec qui j'ai eu des grandes discussions à ce sujet, disait le théâtre va mourir. Le théâtre va être battu par l'image, par l'afflux d'images de la télévision et du cinéma. Et donc, dans le théâtre de cette époque-là, Planchon lui-même, dont j'avais tellement, mais vraiment adoré Bérénice, par exemple, avec Samy Frey, Francine Berger, c'était vraiment incroyable de jouer une tragédie de cette façon-là, mais avec une modernité incroyable et une intensité. Et bien, tout d'un coup, dans Par-dessus bord, il a mis des images qui étaient superfétatoires, enfin, qui étaient du commentaire, à tel point que Vinaverk disait « Oh, ben, j'aurais bien vu ça avec trois chaises et deux tables », enfin voilà, parce qu'il y avait des balais, il y avait des choses absolument qui s'éloignaient du cœur de la pièce. Et donc, voilà, le metteur en scène, on en est un petit peu, comment dire... Alors, quand c'est Ostermeier qui fait travailler des acteurs allemands, c'est extraordinaire, parce qu'il va loin, il va loin dans la réécriture de la pièce, mais dans le travail aussi.
Mais c'est quoi, pour du point de vue de l'acteur, dites-nous ce que c'est qu'un metteur en scène qui va loin.
Alors, un metteur en scène qui va loin, je ne sais pas, je pense à tout ce que j'ai vu avec lui, Hamlet ou Ibsen, c'est... Ah là là. C'est comme s'il se réappropriait la pièce et que là, avec les acteurs qui, en effet, je connais, puisque Scène de la vie conjugale était mise en scène par une actrice allemande qui s'appelle Rita Rosseck. Et je vois bien leur école et leur manière. Où j'ai travaillé aussi avec Luc Bondy.
Mais je parle dans le travail de l'acteur. Hein.
Ben, je pense
qu'ils vont plus loin que les Français. Ils peuvent aller plus loin que les Français.
Et ils vont plus loin parce que le metteur en scène, il y a un rapport entre metteur en scène et acteur qui est, comment dire, radical. C'est-à-dire que les metteurs en scène, mais ils donnent des indications fortes, ils montent les pièces fortes, donc l'acteur, il trouve son compte. Mais ils vont le plus loin possible dans l'expression d'une scène, dans la vérité d'une scène, dans l'ampleur, dans le relief qu'on peut donner à une scène. Et voilà, donc
c'est-à-dire
ça.
Ils osent
des choses.
Dépasser les tabous.
Oui. Oui, complètement.
Physiquement,
bah, Hamlet, par exemple, quand on voit... son nom m'échappe, c'est affreux. Oui, voilà, exactement, c'est lui. Eh bien,
Eldinger.
Voilà, Eldinger. Eh bien, c'est incroyable, quoi. Tout ce qu'il peut se permettre. Et on sent que le metteur en scène est derrière pour lui dire, vas-y, la scène est à toi, tu peux y aller. Et la manière dont il a architecturé la scène, etc., est forte aussi. C'est pas gratuit. Moi, je me souviens quelquefois, j'étais en bisbille avec les metteurs en scène qui me faisaient faire des choses qui me semblaient pas du tout en rapport avec ce que disait l'auteur. Donc, c'est une souffrance parce qu'on est en première ligne, nous, avec le spectateur. On sait quand ce qu'on nous fait faire, ça va passer ou pas passer. Donc, il y a eu toute cette période-là où le metteur en scène était vraiment le roi. Et autant, je sais pas d'ailleurs si je serais capable de travailler avec Ostermeier, qui a pourtant travaillé avec des acteurs français. Mais on sent qu'il y a une discipline chez l'acteur allemand, qu'il est capable d'épouser et d'aller aussi loin que possible, enfin aussi loin que le metteur en scène le souhaite. Mais les metteurs en scène dont je parle, parce que ils vont très loin. On parlait tout à l'heure d'Arya Mnouchkine, qui a été une révélation pour moi Giorgio Strehler ou Peter Stein, enfin des grands metteurs en scène comme ça. C'est vrai qu'on a envie de les suivre aveuglément parce qu'on sait qu'on sera au service d'une œuvre qui est leur vision, mais aussi qui sert l'œuvre aussi. Je sais pas. Et Arya Mnouchkine, je crois la première pièce que j'ai vue, c'était La cuisine de Wesker. C'était une révélation. Je m'étrangle. Mais d'émotion en y repensant, parce que c'était vraiment incroyable, quoi. La mise en scène, la force et l'interprétation de chacun, quoi. C'était vraiment comme un sacerdoce, quoi. C'était vraiment un lieu sacré, la scène, et on allait le plus loin possible. Et elle continue comme ça. Donc c'est vrai que c'est compliqué de trouver l'équilibre. Il faut être entre les mains d'un bon metteur en scène.
Et au cinéma, la mise en scène d'un cinéaste, la direction d'acteur est différente Parce que ça va plus vite, c'est ce que...
Ça va plus vite, oui. Et puis, de toute façon, un metteur en scène, il est préoccupé, il n'est pas frontalement avec un acteur.
C'est René, par exemple, qui choisissait quand même ses troupes aussi, sa troupe, oui, parce que c'est vrai qu'il s'était constitué comme une troupe.
Oui.
C'était beaucoup d'acteurs de théâtre. Alors, comment il dirigeait ? C'était pour le cinéma, mais c'était un homme qui était passionné par le théâtre. Comment ça se passait ?
Eh bien, la première fois sur le rôle le plus important pour moi, c'était Mélo. Eh bien, on n'avait pas beaucoup de jours de tournage, on avait 23 jours. Donc, il fallait vraiment qu'il anticipe et qu'on a fait des répétitions pendant 23 jours aussi. Donc, il avait tout en tête. Il avait tout en tête. Le décor était tracé au sol avec des bandes blanches comme ça. Et puis, il savait qu'à tel moment, la caméra serait sur tel acteur. Puis, à telle phrase, elle serait sur l'autre. Donc, le montage était déjà fait. Et on a répété avec lui. Ça, cette notion de répétition, elle était très mal vue par la nouvelle vague. Je parle de Truffaut, de Godard, etc., qui pensaient que, par rapport au cinéma d'avant, il fallait être dans la spontanéité. Or, la répétition, je l'ai connue avec, René, Colline Serrault... ça n'enlève rien à la vie, quoi, qu'on peut créer après avoir répété et après avoir repéré. Les structures, ça ne nous empêche pas de voler, et de s'envoler et de vivre librement. Mais René, oui, il travaillait beaucoup, beaucoup en amont, mais sereinement, tranquillement, puisqu'on sait que le cinéma, c'est un art de la rapidité, il faut aller vite. Alors, la pression sur un acteur au cinéma est beaucoup moins grande qu'au théâtre, quoi. Au théâtre, on est là, sur la scène, on offre ce qu'on sent, ce qu'on vit, et puis tout d'un coup, le metteur en scène peut dire « Non, c'est pas ça. » Et là, ça vous bloque, ça vous arrête. Alors, si c'est dur à vivre quelquefois, il a peut-être tout à fait raison, et on peut en effet discuter avec lui et voir et essayer de faire. Mais au cinéma, ça se passe pas comme ça. On refait la prise, et la prise, elle ne dure pas plus qu'une minute, quoi, pas plus, ou peut-être 2 ou 3 minutes. Dans Mélo, il y aurait 9 minutes, par exemple, le monologue. Mais enfin, bon, c'est plutôt rare. Donc, et puis, il est soucieux de la technique. Donc, son attention est dispersée. Il n'est pas seulement sur l'acteur. Donc, c'est plus léger à vivre, le cinéma.
Vous disiez tout à l'heure que vous sentiez quand une scène, par rapport à votre travail avec le metteur en scène, que vous sentiez quand une scène passerait ou passerait pas. Ben oui. Comment vous le sentez ? Ce qui passe pas ? D'où ça vous vient, ce savoir-là ?
Parce que on sait très bien que si, par exemple, je vais continuer sur Mélo. Mélo, c'est une pièce de théâtre de Bernstein. Et donc, à un moment donné, c'est une pièce de quelle année, 1930, 40, 40, peut-être quelque chose comme ça. Et donc, les auteurs mettaient des didascalies en disant, à tel endroit, j'avais un monologue qui durait 9 minutes et demie. À tel endroit, le personnage se lève, fait 3 pas à gauche. Puis après, à tel autre, il s'assied. Et je commence à le travailler et je dis à René, moi j'ai pas du tout envie de me lever à ce moment-là. J'ai pas du tout envie de m'asseoir à ce moment-là. Et il dit, d'accord. Parce que je lui donne mes raisons, je lui dis ce que je sens, quoi, mon sentiment, j'ai pas envie de le casser, quoi, en faisant un déplacement artificiel. Et qui se comprenait à l'époque dans le théâtre comme on le mettait en scène. Mais là, il n'y avait pas, j'étais au cinéma, j'avais envie de rester, c'était à la caméra de bouger, d'ailleurs la caméra a bougé à ce moment-là. Et donc voilà, c'est ça le metteur en scène à l'écoute. À la fois, il a sa vision, mais à la fois, il écoute aussi l'autre, quoi. J'ai perdu la question en route, Fabienne, vous m'avez posé quelque chose.
Non, comment vous vient ce savoir de savoir ce qui se passe ?
Ah oui. Eh bien, par exemple, au théâtre, si tout d'un coup, voilà, c'est ça, c'est parce qu'il y a des repères comme ça, tout d'un coup, je ressens quelque chose qui ne justifie pas que je me lève, mais au contraire, avec certains metteurs en scène, où tout d'un coup, je dois être dans un rapport, on parlait tout à l'heure, avant d'entrer en scène, la grande muraille de la grande muraille de Max Frisch, eh bien, il y avait des moments où, je sais pas, le personnage que je jouais disait des choses absolument importantes, le metteur en scène voulait que j'ai une position qui soit importante, et tout d'un coup, je mettais à genoux, Or, le message serait passé 1000 fois mieux si j'étais resté dans la situation telle qu'elle était au début, c'est-à-dire face à quelqu'un ou me retournant vers quelqu'un d'autre. Quelquefois, on cherche à représenter, le metteur en scène cherchait à souligner un peu les choses. Et là, c'est embêtant, quoi, quand on voit un metteur en scène qui veut, diriger un peu le sentiment, quoi, et qui veut le casser un peu dans l'évolution. Il y a quelque chose, le théâtre, c'est une matière vivante, et on sent quand on nous fait faire un geste ou quelque chose qui n'est pas approprié, pas en rapport avec la situation, ça va pas. Donc, on sait très bien que le public, à ce moment-là, va décrocher, parce qu'on est le premier spectateur un peu de ce qu'on ressent.
Et vous le dites, ça ?
Oui, on le dit, on discute.
Enfin, vous le dites plus aisément maintenant.
Oui, bien sûr.
Qu'en 72.
Évidemment, bien sûr. Et donc, je débutais. Donc, on essaye, on résiste, on discute un peu, mais c'est compliqué parce que le metteur en scène, on sait bien que c'est sa vision. C'était un peu, voilà. Et donc, il y a un moment donné, on est obligé, mais on le fait pas à contre-cœur. On le fait le mieux possible, mais en sachant très bien que ça va pas être aussi efficace que si on l'avait fait comme on le sentait.
Quand est-ce que vous avez le sentiment d'être bon? Bon acteur, et quand est-ce que vous avez le sentiment d'être mauvais?
Tout simplement, ce qui se passe, par exemple, je peux très bien avoir repéré une scène, la manière de la jouer, etc. Et puis, quelque chose m'a troublé dans la vie, je peux être contracté. C'est une question de confiance, quoi, tout d'un coup. Et si je suis en pleine confiance, si je fais le vide avant d'entrer en scène ou avant de jouer une scène au cinéma, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, je m'octroie toutes les libertés. Mais si, par contre, ma tête commence à penser ou à être chagrinée par quelque chose qui a interférence, c'est foutu. Et voilà, c'est le cœur de la cible qu'on doit toujours viser, quoi. Le cœur de la cible des sentiments. C'est ça qui est important, quoi, qu'on soit au plus haut point de vérité, la vérité du personnage, quoi, et d'avoir la liberté. Il doit y avoir un acteur qui m'appelle pour me démentir.
Donc, faut faire le vide.
Oui, faire le vide pour pouvoir avoir.
Et pas le plein, justement, pour être plein d'émotions.
Non. Non, c'est exactement ce que dit Diderot dans le paradoxe du comédien, c'est-à-dire que c'est celui qui domine un peu les choses qui donnera la possibilité au spectateur de ressentir le plus de choses, tandis que celui qui est pris dans son sentiment, etc., et qui l'habite complètement, ne nous donne pas à nous spectateurs la possibilité de lire ou de voir ou de ressentir.
Parfois, vous vous êtes senti mauvais quand la critique disait que vous étiez bon.
Oui.
En votre fort intérieur.
Oui, même quelquefois en jouant, à certains moments, c'est un vrai désastre. C'est vraiment une réelle souffrance. Hein. Franchement, quand on n'est pas au cœur de soi-même, c'est une réelle souffrance. On a l'impression qu'on fait un métier, ça n'a pas de raison. On n'est plus acteur, quoi. Donc c'est une réelle souffrance, et donc il faut retrouver cet état de virginité, de liberté. Sinon, le métier qu'on fait n'a plus lieu d'être.
Mais comment vous faites quand ça vous arrive pendant une représentation?
Pendant, c'est difficile, parce qu'une fois qu'on est bien parti, j'ai l'impression que ça peut aller. Il n'y a pas quelque chose, c'est comme si on attrapait un fil et puis qu'on le tenait et qu'on allait on le déroulait jusqu'au bout. Mais avant, il peut y avoir quelque chose qui trouble, et voilà. Mais comment on fait? Alors, quelquefois, c'est vrai qu'on nous dit souvent ça, mais non, je te jure, c'était drôlement bien ce soir, etc. Ou même des gens qui participent à la pièce, des partenaires. Non, c'était bien ce soir. Donc on peut avoir une sensation, nous, qui n'est pas forcément celle qu'auront les autres.
Vous travaillez beaucoup la voix. Vous avez fait, enfin j'entends, vous faites beaucoup de radio.
Ah oui.
Vous avez fait la voix off d'Amélie Poulain, par exemple. Vous avez enregistré, vous étiez remarquable, Proust, La recherche du temps perdu. Je l'ai beaucoup entendu. C'est rare, les comédiens qui... C'est quel type de plaisir, ça?
Alors, j'étais à la Comédie Française, et à la Comédie Française, à l'époque, on créait beaucoup d'auteurs à la radio. Et la voix, j'adore, parce qu'on peut raconter plein de choses, on peut créer un suspense avec la voix. Il y avait cette phrase magnifique d'Orson Welles qui disait « La radio a ceci de supérieur au cinéma, c'est qu'à la radio, l'écran est plus large ». C'est vrai que quand vous écoutez, vous imaginez, quoi. Et donc, avec la voix, on peut faire ressentir ou laisser à l'autre le soin. Et avec les ingénieurs du son ou bien avec les bruiteurs, c'est ça. On peut vraiment créer un univers, un monde. Et moi, j'aimais bien avec la voix de pouvoir. Et vous avez parlé aussi d'Amélie Poulain. Et Amélie Poulain, je suis arrivé assez tard sur le projet parce que Jean-Pierre Jeunet cherchait une voix. Il avait une voix en tête qui était celle du comédien français qui doublait les Incorruptibles, qui passait à la télévision avec Robert Stack, je me souviens. Et il y avait une voix française qui était vraiment typique. Et il voulait retrouver cet timbre-là ou cette manière de parler. Alors, il ne s'agissait pas de reproduire, mais il y avait une tonalité. Donc, c'était vraiment la création d'un personnage par le biais d'une voix. Quoi, voilà.
Et comment on la travaille, sa voix? Ça change une voix avec le temps?
Ça change avec les personnages. C'est-à-dire, c'est un personnage, c'est une manière d'agir, de se comporter, de s'asseoir, de se lever. Staline ne va pas se lever comme le père de Tanguy. Enfin, il y a des tas de choses tout à fait différentes. Et donc, du coup, la voix, elle correspond à ce qu'on ressent à l'intérieur. Évidemment, on peut pas faire des nuances, on peut pas sortir du timbre habituel de sa voix, mais quand même, il y a des nuances, quoi. Il y a des nuances. Je suis sûr que dans certains rôles, j'ai pas la même voix, même si moi, je peux le mesurer à quelques nuances et millimètres près, mais quand même, ça correspond vraiment au personnage. Une voix, c'est vraiment, d'ailleurs, tiens, ça me fait penser que on a la voix de nos vies, quoi, la voix de qui correspond à nos vies. D'ailleurs, la voix qu'on peut avoir ou que je pouvais avoir en 72 n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. C'est normal, on évolue, on grandit. Puis le théâtre aussi fait. Voilà, il y a pas. Quand vous disiez, vous travaillez la voix, je pensais que c'était. Mais je travaille avec ma voix. Oui c'est vrai.
Oui, bien sûr. Oui, voilà. Pas faire de la voix.
Oui, c'est ça. Mais une voix, ça.
Comment
ça...
vous la qualifieriez l'évolution de votre voix alors?
Alors, je pense que c'est un peu...
Votre instrument, hein ?
Oui, c'est l'instrument principal.
Et vous avez encore une voix, alors que rares sont les comédiens maintenant, les jeunes comédiens, à avoir une voix assez singulière.
Alors, la voix, je ne sais pas pour chacun de vous qui êtes là, mais sa propre voix... C'est difficile de l'entendre, de savoir, parce qu'une voix, c'est pas seulement une tessiture, c'est aussi la façon de moduler les mots, etc. Et ça m'a tellement intrigué à un moment donné que j'ai demandé à un orthophoniste, je dis, mais qu'est-ce que c'est une belle voix? Et il me dit, c'est une voix sincère. Ça m'allait très très bien, parce que c'est vrai que, je sais pas, quand j'entends Brel ou quand j'entends... Je pense qu'une voix... Alors, c'est vrai que l'évolution d'une voix, c'est peut-être aussi ça, c'est-à-dire que plus une personne grandit, vieillit, etc., avance dans la vie, plus sa voix, je pense, va lui appartenir, quoi, à sa personnalité. C'est vraiment la couleur de la personne, quoi, une voix. Je pense que c'est une manière qui traduit vraiment ce qu'on est.
Est-ce que vous avez des questions à poser à André Dusselier ?
Je vais ouvrir le bar.
Ah oui, Jean-Michel.
J'ai écouté avec attention ce que tu as dit. André, je pense que, de toute manière, tu as réduit le metteur en scène, et sans doute avec raison, à un ectoplasme inexistant. Parce que
mais
tu
non
es... Mais si, mais il a raison. Parce qu'il est lui-même le metteur en scène de lui-même. Bon, ça, c'est évident, je le connais depuis trop longtemps pour ne pas le savoir. Il choisit ses textes, il choisit son rythme, on lui dit entre par là, etc. Bon, mais je trouve que c'est bien parce que le résultat est absolument parfait, mais c'est un créateur, il va être au début et à la fin de sa création.
Il n'est pas obéissant, Jean-Michel, il n'obéit pas.
Ah, mais moi, je ne me suis jamais permis de lui donner aucun ordre parce que je ne suis pas fou. D'abord, mais.
T'exagères parce qu'on a tourné deux fois ensemble, oui, et moi, j'aimais bien que tu me donnes des indications. Oui, mais c'est vrai que le théâtre et le cinéma, c'est différent.
Non, mais ce que je veux dire, il y a juste une chose que je voudrais, à laquelle tu voudrais que tu réponses. Tu connais cette théorie de la boîte vide de Mastroianni et de, je sais pas, tous ces grands acteurs italiens. Et moi, Jean Mastroianni m'a dit, moi, ça ne m'intéresse absolument pas de lire le scénario. C'est toujours un homme qui aime une femme et la femme part avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas la peine qu'on me le fasse lire. Moi, je veux un type qui me fasse des bonnes spaghettis. Et quand je tourne avec Fellini, je lis. Et je fais, ça va bien, je t'aime. Et c'est juste, et c'est ça. C'est-à-dire que c'est exactement le contraire de la concentration, de la préparation, du recherche, du rythme, du silence. C'est la spontanéité. J'aimerais savoir comment tu ressens cette pratique qui est évidemment l'envers de tout le théâtre américain, de tout le théâtre, de trucs studio. Je sais pas, parce que moi, je trouve que tu es toujours... On a l'impression que c'est très naturel, et je sais que le naturel est une construction infinie de quelque chose qui ne l'est pas, mais quand même, il y a comme ça la spontanéité. Si tout d'un coup ça part, est-ce que je peux rentrer sur scène sans savoir et y aller ? Tu vois, c'est une espèce de truc où finalement, peu importe le poète, peu importe le rythme, il y a... Voilà, je le dis et ça marche.
C'est vrai qu'il peut... Enfin, c'est Mastroianni sur lequel tu t'appuies, l'exemple, ouais, en effet.
On a parlé longtemps, parce que j'ai failli tourner beaucoup avec lui.
Oui, c'est vrai. Il disait que lui-même, il dormait avant d'aller tourner une scène, et donc il arrivait de façon extrêmement libre et détendue. Mais est-ce que vraiment, quand je le vois tourner les yeux noirs, quand même, j'ai l'impression qu'il a pensé à son personnage? Mais peut-être pas. Peut-être qu'en effet, les choses se font comme ça, avec les indications du metteur en scène... chacun a sa façon d'aborder les choses, de jouer les personnages. Ça peut donner des... Seul le résultat compte.
Donc, oui, absolument.
Donc, en effet, ça
mais
peut...
Mais c'est par rapport à toi, je veux dire. Par rapport à ce... Évidemment, le résultat est le même. On croit que vous êtes tous les deux aussi naturels. Seulement, eux, ils refusaient absolument. Moi, je me souviens de Richard Berry, un jour, qui s'est rencontré à 2h le matin autour du Luxembourg avec un imperméable. Et je lui dis, sérieux, qu'est-ce que tu fais? Il dit, bah, je vais jouer un type qui tue dans le Luxembourg à 2h du matin avec un imperméable. Donc, il tournait toutes les nuits. Mais il ne l'aurait pas connu. Il aurait fait ça en veston. Et il, je veux dire, ma soirée, ça aurait été ça, quoi. Il y a, l'impréparation est-elle aussi... La spontanéité n'est-elle pas aussi le ferment?
Si, bien sûr. Mais Pacino disait, par exemple, qu'il avait beaucoup plus de mal à jouer des personnages qui étaient proches de lui que des personnages qui étaient très éloignés de lui. Parce qu'il y a toute une part d'imagination, de création. Je veux dire, si je joue Staline, je ne peux pas arriver comme ça, en sortant de ma chambre, et paf, je joue Staline. Staline, non. Il avait une façon d'être. Enfin, excuse-moi, Jean-Michel, parce que j'exagère. Hein, je prends un exemple un peu excessif.
Ça, Staline, c'est l'exemple même de l'imitation, parce que c'est un personnage historique connu. Tu peux pas Bermuda avec des palmes.
C'est vrai. Mais en même temps, oui, exactement. Et donc, j'étais bien obligé de regarder. On n'a pas beaucoup de films sur Staline, mais il a une façon de marcher, de se comporter. Donc, évidemment, il fallait que je m'en rapproche. Et pour, dans le travail, il fallait que je me lève le matin et que j'essaie de vivre comme Staline, en épluchant les carottes ou en buvant mon café. Donc, il y a tout un travail de préparation comme ça. Mais c'est vrai que sinon, on peut, sur certains rôles, arriver avec une grande décontraction. Je te dis pas d'ailleurs qu'à certains moments, avant que le moteur soit déclenché, je connais beaucoup d'acteurs et je fais comme eux, en train de plaisanter, de faire des choses. Mais c'est pour retrouver une sorte de liberté, de décontraction, oui, comme Mastroianni.
Là où tu avais raison, c'est sur les silences. Parce que je pense qu'il y a ce que disait Duchamp quand il disait l'œuvre est faite par celui qui la regarde. Le silence permet au spectateur de se raconter une histoire.
Voilà.
Le permet de devenir auteur avec toi, et voilà. Ça, c'est magnifique.
Voilà, voilà. Et je pense que c'est vrai que c'est la différence qu'il peut y avoir entre nous et les acteurs américains.
Madame ? Ah, oui, attendez, ça va venir. Un micro pour madame. Voilà, levez la main, madame, effectivement. Voilà.
Merci. Je voulais vous dire que vous avez... Non ? Là, voilà. Très bien. Vous avez une excellente diction. Est-ce que vous donnez des masterclass ou enfin, parce que les comédiens de plus jeunes, disons, n'ont pas cette diction, ce phrasé, ces silences. Et ça, ça me perturbe beaucoup quand je vois une pièce ou même au cinéma, quelquefois. Vous avez une... Est-ce que vous donnez des cours de diction ?
Non, pas du tout. pas du tout, mais...
Parce que j'ai un fils comédien, je voudrais vous l'envoyer.
Mais pourquoi ça s'est perdu, alors pour...
Ah, bonne question aussi. C'est vrai, moi, je supporte pas, même au cinéma, vous avez raison de le dire, de pas comprendre, quoi. Il y a l'impression que... Peut-être que l'école, le théâtre est une école qui nous forme et qui nous oblige, par définition, il y a 750 personnes dans la salle, on doit être entendu des 750... Pour faire passer un sentiment, pour que le spectateur... Moi, j'aime bien être totalement paresseux et passif quand je suis dans une salle et j'ai envie d'être saisi, quoi. J'ai pas à faire d'efforts, ni d'audition, ni de quoi que ce soit. Donc, alors, moi, j'avais été, dans l'excès contraire, un peu marqué par, je me souviens, de ces habitudes à la Comédie Française qui sont peut-être générées par le théâtre qui était particulièrement difficile. Quand j'entendais Jean-Paul Roussillon ou Michel Aumont, on avait l'impression qu'ils appuyaient sur les mots, qu'ils les... Bon, alors, quelquefois, ça peut avoir des déformations dans l'autre sens. Mais je trouve que c'est la moindre des politesses, ou enfin le premier devoir d'un comédien, de se faire entendre partout. Puis de toute façon, c'est pas tellement une question morale, hein, ça n'a rien à voir avec ça, pas seulement. C'est une question de... Je crois que si on veut exprimer un sentiment, quand on est dans la vie et qu'on est habité par quelque chose, eh ben, évidemment... Tous les mots, toutes les syllabes d'un mot sont pleines, sont remplies, quoi, de l'air qu'on jette comme ça. Et donc, c'est normal et c'est assez naturel. Alors, peut-être que les jeunes n'ont peut-être pas la formation du théâtre et peut-être que c'est quelque chose qui va se développer. Mais aussi, ça vient du fait que, je le sais parce que j'ai des enfants, j'ai un fils comme ça. Quelquefois, je veux bien me faire passer pour sourd à ses yeux, mais c'est pas grave. Mais je dis, mais tu viens, t'as dit quoi? Il était à 50 centimètres de moi. Mais ils ont une façon de parler, peut-être que j'avais d'ailleurs quand j'étais jeune et que j'avais leur âge, mais qui, c'est plus rien n'est articulé, plus rien n'est, c'est mou, c'est Et on n'entend pas, quoi. On comprend pas. Mais c'est ça qui est terrible, c'est qu'on comprend pas, quoi. Ça nous parvient pas. Mais c'est pas tellement si on
peut-être
fait l'effort.
Peut-être qu'il faut exprès.
Comment ?
Peut-être qu'il faut exprès.
C'est un genre, oui. Alors Dieu sait que non, mais c'est un genre. Je pense pas que s'ils adoptent un genre. Je crois que c'est une sorte de volonté d'être naturel avant tout. Donc naturel veut dire oh, je fais pas d'effort. Je veux pas justement sculpter les mots et je les sculpte pas. Moi, je n'aime pas ça. Je fais pas un travail extérieur. Je veux que ce soit les sentiments qui habitent les mots et les syllabes et les consonnes et les voyelles. Mais eux, ils auront l'impression d'être une sensation personnelle, d'être plus naturel s'ils font pas d'effort. Or, moi, j'adore Pommerat, hein, vraiment. Mais il est allé, il a introduit au théâtre, Fabienne, le micro, quoi. Donc, et ça se justifie dans les spectacles qu'on voit, je comprends. Mais quelquefois, ils vont très très loin parce que même avec un micro, je les entends pas. Non, mais c'est vrai. Et pourtant, j'adore les spectacles. Hein. Je vraiment, tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Mais
qu'est-ce que vous pensez du micro ? Parce qu'il n'est pas le seul maintenant. Alors, ça a envahi les scènes, le micro.
Je suis très mal placé pour parler maintenant parce que j'utilise un micro dans le Novecento, mais pour une raison essentielle, c'est que je suis avec des musiciens et que les instruments de musique sont eux-mêmes équipés de micros. Je ne pourrais pas lutter avec ma voix seule contre ça. Donc, je suis obligé de m'aider d'un micro. Mais moi, je n'aime pas. J'aime pas le micro parce que, comment dire, pourtant j'adore Pommerat et je comprends sa démarche parce qu'il y a une envie peut-être que le théâtre soit comme au cinéma presque d'une certaine façon. Et il y a quelque chose d'ailleurs de très cinématographique dans son écriture. J'aime beaucoup ça parce qu'il y a, on sent que c'est un auteur d'aujourd'hui, quoi, dans l'ellipse, dans la manière de présenter les choses, dans la manière dont évolue la pièce. Mais voilà, il faut pas que le confort technique soit un désavantage humain. Je sais pas comment dire.
Une autre question, monsieur? Et monsieur, puis on arrêtera là, parce que je crois qu'on a un peu dépassé. Monsieur.
Oui, bonjour. Au cours de la rencontre avec René de Obaldia, ce grand monsieur a raconté une anecdote survenue à Michel Simon lorsque celui-ci jouait dans sa pièce dans les branches de Sassafra. Il arrivait assez souvent, paraît-il, à Michel Simon de mélanger le texte qu'il était censé dire avec d'autres textes de ses films ou de ses pièces. Alors peut-être que Michel Simon était un cas particulier ou est-ce que c'est un risque qui concerne tous les acteurs, vous en particulier, qui, je suppose, avait un tas de textes en mémoire.
Avec tout ce que je viens de vous dire, non mais alors j'admire énormément Michel Simon. C'est-à-dire que ce qui est même frappant, c'est que quand on remonte au film où il a tourné, je pense à Notre Promène donc pas toute nue de Fedot, etc. Il y a un décalage entre lui et les autres acteurs qui ont une sorte de manière de parler de façon assez aiguë comme ça. Et lui, il est d'un naturel époustouflant. Ça m'étonne pas l'anecdote que vous racontez parce que je sais pas, c'est une matière vivante dans laquelle il puise. Comme ça, on a l'impression qu'il ressort, mais ça fait partie de sa nature, quoi. Je pense. Chaque acteur a sa nature et je pense que, je sais pas.
Et vous n'avez jamais mélangé ?
Non, ça m'est pas arrivé de mélanger les choses. C'est-à-dire, je me demande d'ailleurs dans le texte de Obaldia, qu'est-ce qu'il pouvait raconter, qu'est-ce que ça pouvait donner à l'arrivée, quoi.
N'importe quoi,
peut-être. Oui. Non, mais il s'octroyait beaucoup de liberté, mais en même temps, c'était agréable à voir, et peut-être que l'acteur est toujours à la recherche de cette liberté.
Monsieur, ce sera notre dernière question.
Merci. Madame, monsieur de Solier, vous avez évoqué en préambule à ce dialogue votre désir à ce moment de votre vie, de votre carrière, d'être à l'initiative de pièces de théâtre, sans en être le producteur forcément, mais avez-vous ce même désir d'être à l'initiative au cinéma ?
Non. Non, le cinéma, c'est vraiment un rythme tout à fait différent et il faut vraiment tout d'un coup faire abstraction de son travail d'acteur et des propositions qui peuvent vous être faites pour tout d'un coup s'isoler, seul ou avec quelqu'un d'ailleurs, ou des scénaristes pour travailler pendant un an. J'aurais l'impression que ça me manquerait trop de ne pas pouvoir jouer. Je pense que c'est vraiment deux manières de vivre, de faire. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont devenus metteurs en scène. Mais j'ai l'impression que, je sais pas, j'aimerais jouer encore plein de choses et que j'ai envie de suivre cette pente en montant, comme dirait Gide.
Merci de votre écoute, merci de votre attention. Merci d'être là.